ce jour dédié pour la tzacha, la réussite de Shlomo Ben Vera Bezrat Hashem.
Amen.
Alors une question, ça fait quelques jours déjà que Youssef me pose la question. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors on va faire une petite, un petit préambule avant la question de Youssef. Très souvent on nous pose la question, on va dire voilà, quelqu'un maintenant prend une décision dans sa vie. Qui a pris la décision ? Lui ou Dieu l'a guidé ? Parce qu'on dit que tout dépend du ciel. Donc c'est pas moi, c'est Dieu. Alors si c'est moi qui décide de, si c'est Dieu qui décide de tout, comment Dieu peut-il me récompenser si j'ai fait un bon choix ? Et au contraire, me faire subir les, je ne dis pas punir, j'aime pas ce mot, les conséquences de mon mauvais choix, me les faire subir. C'est lui, c'est pour moi qui ai choisi, c'est lui qui m'a fait choisir. Alors, il est écrit, « Akol bide shamayim, tout dépend du ciel, chutz mirat shamayim, sauf la crainte du ciel. » Ça veut dire que, en fait, Dieu nous a donné une nature. Quand le choix que nous devons faire n'a pas d'incidence de Torah. C'est qu'une question de nature. Par exemple, l'exemple que je donne toujours, quelqu'un il va au bistrot, et il prend la carte, et il hésite entre jus d'orange et jus de pomme. C'est le même prix, c'est la même cache-route, et il décide jus de pomme. C'est pas lui qui a décidé. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il a choisi plutôt jus de pomme que jus de d'orange, à moins que ça soit un grand kabbaliste qui fait des flagellations, il prend exprès ce qu'il n'a pas envie, d'accord ? Normalement, il a pris ce qu'il a envie. Envie, ça c'est sa nature. Maintenant, est-ce qu'il est responsable de sa nature ? C'est lui qui a décidé, je veux une nature pareille. On dit en français, il y a une expression, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi ? Parce que toi tu as un goût comme ça, t'aimes cette couleur, t'aimes ce jus, moi j'aime pas, il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Chacun en fonction de la nature qu'il a reçue. Vu que lui n'a pas décidé d'avoir cette nature, donc c'est Dieu qui a décidé. Ça, ça rentre dans Akol Bidei Shamayim. Tout dépend du ciel. Chutz Miyirat Shamayim, sauf la crainte du ciel, quand j'ai un choix à faire où il y a une incidence de crainte du ciel. On va dire maintenant, je vais acheter de la viande, et cachère bien sûr, mais je vois un morceau de steak, on va dire un certain prix, avec un hercher moyen. Et je vois le même steak, mais le même exactement, avec un bon hercher, ça coûte plus cher. Mon porte-monnaie me dit, bon, ben, ça va, c'est cacher, c'est marqué cacher. C'est un rat qui vient me dire comme ça. L'ange du bien me dit, non, mais cher, mon cher ami, tu sais très bien que c'est pas un très bon hercher. On joue pas avec ça, tu prends le moins cher, mais ça coûte plus cher. Bon, ben, écoute, faut décider, l'argent ou le bon Dieu. D'accord ? Là, c'est moi qui choisis. Dans ces cas-là, que je fais le bon ou le mauvais choix, c'est moi qui choisis. Parce que c'est une question déjà de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu. Dieu, dans tout ce qui est la nature, c'est lui qui gère. Mais quand il y a une incidence torahique, il m'a dit, c'est toi qui décides. Je t'ai mis deux programmations. Je t'ai mis une programmation naturelle qui te fait aimer ce que le corps aime, donc pas dépenser d'argent, la paresse, la colère, les plaisirs de ce monde, etc. Toutes nos mauvaises méthodes. Je t'ai mis aussi maintenant une autre programmation qui est celle de notre Neshama, qui te dit, sers Dieu. Au contraire, casse ton corps quand il veut des choses qui sont contre la Torah, et cherche la vérité et agit en fonction. Et là, quand tu as ces deux programmations, ces deux parties en toi, c'est toi qui décides. Et en cela, tu es. C'est par cela que tu es. Quand quelqu'un ne fait pas de choix, si on faisait que les choix naturels que notre nature, à laquelle notre nature nous pousse, ben on ne serait pas. C'est le cas d'ailleurs, c'est marqué que les Rechaim, dans leur vie, sont appelés morts. Les impies sont appelés morts. Pourquoi ? Parce qu'un Rechaim fait tout ce que son corps lui dit. Et aujourd'hui, hélas, c'est à 99,9% de la population mondiale, d'accord ? Tout ce qu'ils cherchent, c'est avoir le plus de plaisir possible. Dormir plus, kiffer plus, les filles, l'argent, l'honneur, la colère, enfin, tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il a envie. Jamais qu'il nous dise non, mon cher ami, il ne faut pas. Pourquoi il ne faut pas ? Au contraire, on fait tout ce qu'on a envie, d'accord ? C'est ça la Bible du monde aujourd'hui. Ceux-là sont appelés morts, parce qil n'y a aucun moment où lui voudra être. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sa nature qui les pousse. Ta nature, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est vrai que tu ressens quelque chose, un plaisir, parce que Dieu a fait comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui t'attire dans cette nature-là. Mais toi, tu n'es pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si... Tout ce qu'on a dit maintenant, c'est quand moi j'agis. Alors qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un agit contre moi ? Quelqu'un vient maintenant, il a le choix de me faire du mal ou pas. et décide, il me fait du mal. On va dire pas sur moi, on va dire sur quelqu'un d'autre, on va dire Moshe, il n'y a pas de Moshe ici. Allez, Moshe, d'accord. Yosef, et l'on veut à Moshe, et décide de faire un lachonara, un beau lachonara sur WhatsApp, d'accord, sur Moshe. Et Moshe, il va avoir la grande honte. Alors, Yosef, certainement, il n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit. Mais il a un choix. Je fais ce lachonara sur Moshe ou pas? Dieu dit que non. Ouais, mais Moshe, je vais aller, il m'a fait trop de mal, je me venge. D'accord, la vengeance est interdite, d'après la Torah. Donc, Yosef, il a fait une erreur. Ok? Et pour ça, Dieu ne s'occupe pas de lui. Il devra réparer. S'il peut réparer, il devra réparer. S'il peut réparer dans ce monde, sinon le monde à venir, Dieu a tous les moyens de faire réparer ce péché qu'il a fait. Maintenant, Moshe qui subit la grande honte. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu? Ou c'est Yosef qui a voulu? Yosef a voulu, c'est certain que Yosef a voulu. Mais est-ce que Dieu aurait-il permis à Yosef de faire ça à Moshe ou pas? Vous me suivez, Yosef et Moshe? Yosef, c'est le méchant, Moshe, c'est celui qui subit la honte. D'accord? Alors, chez tous les commentateurs, presque tous, c'est évident que jamais Yosef aurait pu faire d'une honte à Moshe si Dieu n'avait pas accepté. Dieu a voulu que Moshe souffre. Il a mis Yosef en face d'une épreuve. Est-ce que je me venge de Moshe ou pas? Yosef a raté l'épreuve, et donc le but qu'Hachem voulait que Moshe souffre, c'est réalisé par le biais de Yosef. Si Yosef avait fait le bon choix, et avait décidé de ne pas se venger de Moshe, alors Dieu aurait fait passer quelqu'un d'autre. Il aurait amené Tartampion, d'accord, qui Tartampion lui aurait fait souffrir Moshe, comme Dieu voulait pour raison X, Y, Z, Dieu a voulu que Moshe souffre, donc pour finir, Moshe souffrira. Mais il est impossible, disons-nous, et Rachid dit comme ça, et tous les commentateurs, presque tous, ils disent, il est impossible qu'on nous fasse à nous une chose mauvaise sans que Dieu n'ait pas voulu. Pas un millimètre n'a pas été voulu par Hachem. Vient Yosef, un autre Yosef ici, qui me dit, oui, mais on a Or HaHaim Kadosh qui n'est pas comme ça. Je dis, mais d'où tu sais qu'il existe Or HaHaim Kadosh? Il est archi inconnu. Bon, alors quelqu'un a dû te le dévoiler. Or HaHaim Kadosh, Abraham Ben Attar, il cite un Zohar. Zohar Kadosh. Qui dit comme ça, il dit, pourquoi est-ce que Rouven a dit à ses frères, pourquoi tuer Yosef? Venez, jetons-le dans le trou. Le trou est plein de serpents, plein de scorpions, et ce n'est pas nous directement qu'on le tue, ce serait les scorpions et les serpents qui le tueront. Et c'est décrit dans le texte qu'il a fait ça pour sauver Yosef. Quoi sauver Yosef? C'est plein de scorpions, c'est plein de serpents. Dit le Zohar Kadosh, Rouven s'est dit comme ça. Si jamais je le laisse dans les mains de mes frères ont un libre choix et peuvent le tuer alors qu'il ne mérite pas la mort. On va le jeter dans le trou. S'il mérite la mort, bah Dieu fera qu'il ne sera pas sauvé et les serpents viendront et les scorpions et ils feront le boulot. Si il ne mérite pas la mort, et bah il sera sauvé. Parce qu'il est impossible qu'il meure si Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Question que pose Yosef et que pose chaque personne qui le Zohar ou le Rahim Kadosh, je ne comprends pas. Donc tu me dis que si Yosef serait resté dans les mains des frères, qui l'ont jugé à mort, d'accord, et pouvait le tuer sans que Dieu l'ait voulu, ça change tout. Ça veut dire que l'homme peut agir contrairement à la volonté divine. Très bonne question. Alors je réfléchis à cette question. Alors je vous dis déjà que le Rav Chaim Friedlander, dans son livre sur l'Aïmouna, il parle de cela, il amène des réponses qu'a donné le Rav Dessler. C'est très long à lire. À l'époque, j'ai lu cela, je m'en souviens plus très bien. J'ai pensé à une réponse que je pense que ce n'est pas le Rav Dessler qui la donne, mais peut-être qu'il la donne aussi, je ne me souviens plus. D'accord? J'ai pensé à la chose suivante. Nous, on a tendance à croire que quand Dieu décide, il va décider A ou B. Yosef, soit il meurt, soit il vit. Il y a une troisième solution. C'est que Dieu peut décider que je mets dans les mains des frères qui décident A ou B. Dieu peut faire ça. Attends, il se peut que Dieu, s'il n'y avait pas eu les frères, si on avait jeté Yosef dans le trou, Dieu n'aurait pas tué Yosef, comme ce fut le cas d'ailleurs, parce qu'il ne méritait pas la mort. Alors comment se fait-il qu'il les met dans les mains des frères et que les frères peuvent le tuer contrairement, alors qu'il ne mérite pas la mort? Alors, c'est, là aussi, ce n'est pas mérite et pas mérite. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui décide, pas besoin de le tuer. On ne va pas le tuer. Mais Dieu peut décider maintenant qu'on le met dans les mains des frères. Et bien que Dieu dit, moi, je n'aurais pas tué, mais je laisse faire. Et j'accepte qu'il le tue. Donc, ça va aussi dans le sens de ce que Dieu peut vouloir. Dieu dit, si tu vous me demandez à moi, il ne mérite pas la mort, donc on ne le tue pas. Mais néanmoins, et là déjà, il y a quand même une accusation sur lui, qui fait que dans cette situation de danger où il est, moi je peux accepter que vous décidiez de le tuer. Si Dieu ne veut pas qu'on le tue, même dans les mains des frères, il ne mourra pas. Mais Dieu peut... Il y a trois. Il y a soit il dit, il doit mourir. Soit il ne mourra pas, et quoi que feront les frères, il ne mourra pas. Soit la situation qui est entre les deux, qui est dit, moi, si tu me poses la question, il ne mérite pas la mort. Mais si vous décidez maintenant de le tuer, j'accepte. Donc c'est aussi accepté par Hachem. Mais c'est une sentence qui serait plus grave que si on l'avait mise chez les serpents, parce que là, c'est que Hachem qui décide. Dieu a décidé de donner une part de choix aussi aux frères. Donc ça veut dire qu'un être humain pourrait tuer quelqu'un si Dieu ne refuse pas qu'il le tue. Et Dieu non plus n'a pas accepté qu'il le tue. Dieu a dit, écoute, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, je te laisse à toi le choix. C'est une chose que Dieu peut accepter, n'est-ce pas? Non, je pense qu'en cela, on a une bonne solution. C'est bon? Oui. Ça, on ne sait pas. Alors, dans tous les cas de souffrance aujourd'hui, est-ce que c'est Dieu qui... Je te dis, ce que j'ai dit maintenant, c'est Zohar Kadosh et Zohar Kadosh. Tous les autres commentateurs, et on a des dizaines, disent impossible. Si une chose nous arrive, c'est Dieu à 10 000%. Il n'y a pas un truc qu'on peut nous faire, c'est Dieu n'a pas voulu. Oui.
Alors, pourquoi on a mentionné l'exemple? Quand les tzadikim décrètent, alors Dieu, il écoute. Il a fait la même chose avec le roi Salomon, non? Qui voulait décréter la mort du roi Salomon.
Ok, Dieu écoute, et donc il est d'accord.
Dieu n'était pas d'accord, justement.
Dieu a donné une force aux tzadikim et à toute personne humaine par la prière d'agir. Maintenant, un tzadik, il a un crédit très grand chez Hachem, parce qu'il est proche d'Hachem, et Dieu a laissé dans la nature une place. Il y a des fois, alors Rabbi Sanan Bachaouli m'a dit des fois à propos, il y a des gens qui ont... Ma belle-mère, d'accord? Elle est morte d'un cancer de l'estomac. Elle est morte à l'âge de 46 ans. La même année, elle est morte en été, la même année en Pessah, j'étais avec la Rabbinition pendant une semaine. Avec ma femme, on était à l'hôtel, ma femme, etc. On a pu être très proche de lui. Ma femme m'a bombardé peut-être 500 fois, lui demander des brachot au Rav, 500 fois, il n'en pouvait plus le Rav, je l'embêtais chaque seconde, chaque 30 secondes, une autre bracha pour ma belle-mère. Il m'a dit, il m'a expliqué qu'il y a des cas, et j'ai compris qu'il parlait de ma belle-mère, où c'est Rotam Dam, c'est un tampon de sang. Le Rav Ben Salabashou, il y a des gens qui étaient immobilisés, à vie, il leur dit, lève-toi, ils ont marché. Des gens qui étaient pleins de métastases, il leur dit, t'es guéri. Mais quoi d'arabe, il y a des photos, machin, il va, il fait les photos, plus rien. Il a fait comme ça des milliers de miracles. Des milliers de miracles, tout à fait anormaux. Ah, ma belle-mère aussi, vas-y, il fait tchic-tchac. Il m'a dit, des fois, c'est un tampon, on appelle ça de poterie, qu'on peut casser. Des fois, c'est un tampon de sang. Tampon de sang, on ne peut rien faire. Même un grand sadique comme ça.
C'est signé, quoi.
C'est signé, des fois, donc c'est pas dans tous les cas, tu comprends? Dieu a laissé une force au sadique, qu'ils peuvent, en fonction de leur valeur, ils peuvent prier Hachem et renverser la vapeur. Il semble que le Rav Ben Salman Abba Shaoul, une fois, il a une semaine très très difficile. À tout ce que tu veux, comme souffrance terrible, sa femme à l'hôpital, lui, machin, etc. Sa soeur est venue le voir, lui dit, quoi d'arabe, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pourquoi tout ça? Il dit, la semaine passée, je suis dans la rue. Il y a une femme qui venait me voir, on me dit, quoi d'arabe, je veux une bracha pour avoir un enfant. Et moi, j'ai vu qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors, la seconde, il voit, c'est la seconde. Alors je me suis défilé comme ça, elle a vu, elle a attrapé ma redingote au milieu de la route comme ça, elle a dit, quoi d'arabe, je jure que je ne vous lâche pas, jusqu'à ce que vous me promettez que j'ai un enfant. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai béni. Attendant, ça c'est marqué, elle n'a pas d'enfant.
Pourquoi il n'a pas demandé de changer son prénom, par exemple, à cette femme pour
avoir... Il a vu que ça ne servait à rien. Ah. Alors il voit exactement où ça en est. Quand il peut, il peut, quand il peut, il peut pas. Et des gens, ils disent je peux pas, d'accord. Moi pour un belle-mère, elle m'a dit je peux pas, d'accord. Elle a fait un acte comme ça de. Une autre histoire aussi comme ça, un enfant qui était très malade et les médecins ont dit c'est fini, il n'a pas une semaine. Alors ils ont fait un Shabbat ensemble avec le gosse qui devait mourir. Et samedi soir, ils sont allés chez le Rav Bition, ils ont pleuré, le Rav est resté impassible, je ne peux rien faire. Le dimanche sont venus. Le lundi, la mère, elle s'est mise par terre en hurlant, en suppliant. Le Rav s'est mis à pleurer, il a dit bon, c'est bon, il guérira. À la seconde, il a commencé à guérir, en une semaine, il était guéri, il a une famille, des enfants, etc. Donc le Rav Il dit non parce qu'il voit qu'il ne peut pas. Mais des fois, on lui met la pression, comme cette femme qui l'a attrapée avec la redingote, elle a juré. Alors elle dit, ok, vous aurez un enfant. Mais dans le fait, c'est marqué, elle n'a pas d'enfant. Dans le fait, c'est marqué, ce gosse-là, il doit mourir. Toi, tu vas, tu changes. Bon, ok, bon, on va te faire payer. Ce n'est pas comme tu fais un chèque de 10 millions, il faut assurer, mon cher ami. Alors, quelque part, la souffrance qu'il a, et quand ça dit que souffre, ça a une valeur énorme dans le ciel, il souffre énormément pour avoir fait, il a changé un peu le... Mais tu vois qu'il a une puissance énorme, dans le ciel, c'est marqué que non. Et il arrive quand même à changer. Ce n'est pas dans tous les cas, et ça coûte très cher à lui. D'accord, une fois, on allait voir pour une bracha, il dit, je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis à mon maximum de souffrance. Et de son, on lui a dit, Kvodara, pourquoi tu souffres tellement? Il dit, si je ne souffre pas, d'autres vont souffrir plus que moi. Donc il prenait sur lui, tu comprends? Mais pas dans tout, on ne peut pas tout faire. On peut faire, Baba Sal, il fait des miracles extraordinaires, pas dans tous les cas, il a guéri tout le monde qui allait le voir. D'accord, il a fait des miracles fantastiques. Donc tout dépend où se trouve le décret.
Mais les larmes, ça ne suffit pas, par exemple, les larmes d'une mère, normalement, ce n'est pas censé,
tout
larmes,
c'est pas censé aide, bouger des mondes. Tout aide, tout bouge des mondes, mais à quel point? La preuve en est. Quelqu'un maintenant, on va dire, son père a 90 ans, ça va? Bon, donc ça c'est marqué, écoute mon cher Rabbi, t'as bien vécu, 90 ans, allez, agonie, et tu viens au Lamaba. Son fils, tous ses enfants, il a 12 enfants, se mettent à prier, pleurer, pleurer, pleurer. Ok, bon, ben pleure, ça marche toujours. Ok, on le repousse 10 ans, allez, il a 100 ans. 100 ans, il se met à agoniser. De nouveau, les enfants vont pleurer, pleurer, pleurer. Allez, 110 ans. 110 ans, il commence à agoniser. Nos enfants vont pleurer, pleurer. 500 ans, il y a bien un moment où c'est pas possible. Donc tu comprends que c'est pas, quand on dit les larmes, ok, tout cela agit, mais c'est pas, on fait tout ce qu'on veut avec les larmes. Il y a des limites. Ouais. Voilà, je suis en train d'expliquer. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.